Radio Kapi.
Élection 2023 en RDC, des avancées signalées dans les préparatifs du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement, entre autres la fin des opérations de cartographie par la CENI, c'est ce qu'a fait savoir le ministre du Plan hier à Kinshasa. Vous entendrez Christian Mwando. 69% de la population du Haut-Katanga a un régime alimentaire pauvre et limité. 22 500 enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Révélation de l'UNICEF, c'était lors du lancement vendredi à Kapolowe du projet pilote de lutte contre la malnutrition avec ses approches innovantes et curatives. Et puis, l'invité de ce matin, Monseigneur Fulgence Muteba, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, y réagit aux informations faisant état de la destruction prochaine du bâtiment abritant le lycée Lubusha au profit de l'exploitation minière. Nous sommes dans le territoire de Kambor. Notez tout d'abord que le président Félix-Antoine Tshisekedi a nommé hier les mandataires de certains établissements publics. Ces ordonnances ont été lues à la télévision nationale par le porte-parole du chef de l'État, Tarcisse Kassongo Mouema. C'est notamment à l'Office congolais de contrôle OCC. Ndambo Fortuna a été nommé président du conseil d'administration, PCA. Chimanga Etienne, directeur général. Christelle Mwabilou, directeur général adjoint. Alo Jefrem Amissi Makutano, PCA. William Kazumba, directeur général. Alasokimo Fezamotema PCA, Bonongo Toko le directeur général, à l'Office des routes Tshingombe Kongolo PCA, Kikanga Lajano directeur général, à l'Agence congolaise de presse ACP Tarcisse Kassongo Mouema PCA, Bienvenue Bakoumania directeur général. Le chef de l'État a aussi nommé Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État auprès de la francophonie. Madame, Messieurs, bonjour. Des avancées sont signalées dans les préparatifs du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement en prélude des prochaines échéances électorales. C'est en l'occurrence la fin des opérations de cartographie et sa mise à la disposition de l'ONIP et de l'Institut National des Statistiques par la CENI. Le ministre du Plan, Christian Mwando, l'a déclaré samedi à Kinshasa à l'issue de la réunion du comité de pilotage pour la mutualisation de ce processus, réunion présidée par le Premier ministre Samalou Kondé. Le ministre du Plan, Christian Mwando, dans cet extrait choisi par Billy Van Lutumba.
Au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. La cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'ADS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et puissent l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Et ces opérations, ce sont des opérations d'enrôlement et d'identification qui vont se faire normalement au même moment avec le récépissé. Mais le moteur, ce sera la CENI qui va faire respecter son calendrier. Et de l'autre côté, l'INS va bénéficier de certains matériaux qui seront mis à la disposition lorsque la CENI aura terminé certaines opérations pour pouvoir les utiliser et pouvoir continuer pour le recensement.
Plus de 10 000 déplacés de la province du Maïndombe qui ont fui les affrontements entre les Teke et les Yaka en territoire de Kwamout sont sortis en passant par le village Mongata avant de se diriger soit vers Kinshasa, soit vers le Kwilu ou encore au Kwango. Selon le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango qui a effectué une mission d'évaluation du mouvement de ces déplacés à Mongata du 1er au 3 septembre en cours, ces derniers vivent difficilement car ils n'ont reçu aucune assistance humanitaire. Jusque-là, la société civile plaide auprès du gouvernement central et des organisations humanitaires pour venir en aide à ces sinistrés. Symphorien Kwengo est le premier vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango. Il s'exprime au micro de Irène Boma.
Nous, membres du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, en collaboration avec les ONG SFM et Prodelma, avons organisé une mission d'évaluation rapide de la situation des déplacés à Mongata. À l'issue de cette mission, nous avons constaté ce qui suit. Il y a plus de 10 000 déplacés qui sont sortis par Mongata jusqu'au 3 septembre 2022. L'absence en assistance en vivre et non vivre des déplacés. Il y a aussi le manque d'un centre d'accueil pour les déplacés. Nous recommandons ce qui suit, que le gouvernement central puisse s'investir davantage en urgence pour secourir les déplacés de Kwamout dans les provinces de Kinshasa, Kwango et Kwilu, en leur offrant des sites d'hébergement, que les ONG humanitaires organisent un mécanisme d'appui et d'assistance humanitaire aux déplacés.
Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, les déplacés vivant dans 4 aires de santé de la zone de Kaina bénéficient des soins médicaux gratuits depuis le mois d'août dernier. C'est dans le cadre du projet mis en œuvre par l'ONG internationale IRC Rescue, information livrée par la zone de santé de Kaina et confirmée par la société civile locale. Plus de détails avec Noéla Luzitukabambi.
Seules 4 aires de santé sont concernées par ce projet parmi les 24 que compte la zone de santé de Kaina, qui couvre plusieurs agglomérations et localités dans la partie sud du territoire de Lubero. Il s'agit des aires de santé de Singamwambe, Uboho, Ipsu et Bulotwa. Docteur Aloïs Emaliabwana, médecin-chef de zone de santé de Kaina, affirme que ce projet prend en compte non seulement les déplacés, mais également les familles d'accueil. Les premiers bénéficient de 100% de la prise en charge, tandis que leurs familles d'accueil sont prises en charge à 50%. Mais nous n'avons pas réussi à joindre les bénéficiaires de cette aide médicale. Amani Kinda, de son côté, le président de la société civile de Kaina, plaide pour l'élargissement du projet dans toute la zone de santé qui héberge de nombreuses familles déplacées venues notamment des territoires de Beni et Walikale et plusieurs autres entités de Lubero sous menace des groupes armés. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction de l'ONG IRC Rescue à ce sujet.
Dans le Grand Katanga, signalant le lancement vendredi dans la zone de santé de Kapolowe, dans le secteur de Lufira, territoire de Kambov, du projet pilote de lutte contre la malnutrition avec ses approches innovantes et curatives, organisé par l'UNICEF et ses partenaires dans Vision Mondiale, ce projet cible aussi bien les enfants de moins de 5 ans que les femmes enceintes et celles allaitantes. Ce projet pilote a une durée de 6 mois, des précisions avec Jean Gando.
D'après le représentant de l'UNICEF, 69% de la population du Haut-Katanga a un régime alimentaire pauvre et limité. 13,9% des ménages en insécurité alimentaire se trouvent dans le territoire de Kambov, plus précisément dans la zone de santé de Kapolowe. Selon la même source, 22 500 enfants de 6 à 59 mois ont un retard de croissance. Et cette même malnutrition affecte aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Interrogée sur cette question, une femme de Kapolowe a reconnu que la situation des enfants dans ce village est préoccupante.
Les enfants ne mangent pas bien. À partir de 2 mois, 3 mois, les enfants commencent à manger même le foufou.
La Vision Mondiale compte s'appuyer sur ce projet pour récupérer les enfants malnutris. Docteur Alain Kaboulou est chargé de ce projet, nous explique en quoi il consiste.
Il y a le volet prise en charge des cas de malnutrition, il y a l'autre volet communautaire. Mais ce qui sera plus fait, c'est le volet clinique. Le volet clinique ici, c'est essayer de prendre en charge les cas déjà de malnutrition qui est dans la communauté. Il y aura des intrants qu'on va rendre disponibles dans les unités nutritionnelles thérapeutiques, ambulatoires tout comme intensifs, où la communauté va amener leurs enfants pour être traités sous base de ces intrants qui seront gratuitement déployés dans ces structures.
De retour de Kapolowe, Jean Gandou, Radio Okapi.
La rentrée scolaire sera effective le lundi 5 septembre dans la province du Tanganyika, assure le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants dans cette province. Bruno Jubikilai l'a dit vendredi à Kalemi au sortir de l'Assemblée générale avec les responsables des syndicats des enseignants. Cependant, il dit que les enseignants restent très vigilants par rapport aux promesses du gouvernement pour le réajustement de leur salaire. On écoute Bruno Jubikilai dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
L'intersyndicale nationale qui regroupe tous les syndicats de l'EPST s'est réuni à Kinshasa et que le mot d'ordre de la reprise de la rentrée scolaire était effectif pour que tous les enseignants rentrent à l'école à partir de ce lundi 5. Et c'est dans ces pas que nous allons devoir marcher et ça ne veut pas dire que lorsque nous rentrons, nous avons arrêté de continuer à revendiquer les droits qui sont légitimes des enseignants de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faudrait savoir qu'au mois d'octobre de cette année, le gouvernement va procéder au réajustement des salaires de tous les enseignants à la hauteur de 30% sur le deuxième acompte du deuxième palier de Bibwa. Il s'agit bien sûr d'un palier qui s'est relevé à 250 000 et le gouvernement de la République va payer 30% de cette enveloppe au cours de la paye du mois d'octobre. Donc nous allons être très vigilants pour pouvoir suivre l'exécution de cette disposition le moment venu.
Kasaï Oriental, à quelques jours de la rentrée scolaire, le député national Ntumba Tshabola Bintou a distribué plus de 6000 cahiers et autres fournitures scolaires ainsi que des tôles à plusieurs écoles du territoire de Katanda, son fief électoral. Ce cadre de l'UDPS Tshisekedi l'a dit à Kinshasa au cours d'une conférence de presse de restitution de ses vacances parlementaires dans sa circonscription. Il affirme que c'est une manière, selon lui, de soutenir la gratuité matérialisée par le chef de l'État. En outre, il a distribué des ballons et des vareuses à plusieurs équipes de Katanda pour soutenir l'encadrement de la jeunesse, explique le député national Ntumba Tshabola Bintou au micro de Alain Irung.
Nous avons distribué aux élèves de Katanda plus ou moins 6000 cahiers et 3000 stylos pour permettre aux parents de bien préparer la rentrée scolaire 2022-2023 qui sera lancée par le ministre de l'EPST, son excellence Tony Mwabakazadi, ce lundi 5 septembre 2022 à partir du territoire de Ngandajika dans la province de Lomami. Nous avons aussi répondu positivement à la demande des écoles de notre territoire qui avaient sollicité les tôles pour leur reconstruction. Plus ou moins 500 tôles ont été distribués aux écoles de nos quatre secteurs, à savoir Moutouaï, Balubalu Bilangi, Sangou et Chitoulou. Dans le but d'encadrer la jeunesse, nous avons remis des ballons, des varèzes pour les joueurs et les arbitres des équipes de nos quatre secteurs. Il s'agit d'FC Canon de Kabala, FC Ntita de Katende, FC Nkundui de Kajambala, une équipe de Ligue des Jeunes sous-section de Chitoulou, FC Yang de la cité de Tchala dans le secteur de Sangou, FC Alimelia de Nsengiyabou, FC Renaissance de Manji et une équipe de Benin Panza qui avait reçu aussi un ballon dans le secteur de Moutoua.
Des étudiants des différentes universités de Kinshasa ont échangé hier avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur le mandat de la MONUSCO, organisé par le Club des élites des universités de Kinshasa. Cette activité avait pour but d'échanger ouvertement par des questions-réponses sur le travail de la MONUSCO, notamment dans la partie est du pays où il y a eu des manifestations populaires pour exiger le départ de la mission onusienne. À l'issue de la rencontre, les participants interrogés par Radio Kapi se sont dissatisfaits des réponses données par Mme Bintou Keïta à leurs questions. Les impressions des uns et des autres dans ce reportage de Grâce Hamzati.
Stéphane Kabanga, coordonnateur du Club des élites universitaires de Kinshasa, pense que le dialogue est le moyen le plus efficace pour résoudre toute forme de crise, d'où les bien fondés de cette activité.
Nous avons pu comprendre que la MONUSCO est là pour aider le Congolais. J'appelle tous les jeunes de s'informer, d'avoir cet esprit critique en tout et pour toute chose. À ceux qui sont violents, on ne va jamais résoudre le problème du Congo par la violence.
Pour sa part, Emerode Balenda, étudiante de deuxième licence en communication sociale à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, estime qu'une communication responsable permet de dissiper tout malentendu au sujet de la MONUSCO.
Nous avons compris maintenant que la MONUSCO a sa part, la population a sa part et le gouvernement aussi a sa part. Nous voulons la paix et nous devons préparer la paix. La paix ne se prépare pas seulement seule, mais en équipe. La MONUSCO fait partie de l'équipe qui aide la RDC à arriver à cette fin.
Cet avis est partagé par Daniel Bumbata, étudiant de première licence en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Ces derniers appellent la jeunesse à lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux.
Si nous continuerons toujours à sauter à la première occasion sur les supputations, les rumeurs, la désinformation des réseaux sociaux, je pense que nous serons très loin d'aller vers notre propre développement. D'où notre première insécurité, c'est déjà cette désinformation.
La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a réitéré son appel à la non-violence tout en indiquant qu'elle sera toujours prête à répondre à tout dialogue pacifique comme celui-ci.
Dans l'actualité aussi, la clôture hier à Kisantu au Congo central des travaux des États généraux des sports, travaux clôturés par les 120 délégués moyennant quelques amendements. Les grandes décisions prises lors de ces assises sont la révision du mandat des fédérations et entités sportives en 4 ans, une seule fois renouvelable, sans préjudice des textes internationaux de ces fédérations, la suspension momentanée des décrets de fonctionnement des structures des mouvements sportifs. Nous y reviendrons.
Actualité Afrique Monde.
Trois soldats du groupe des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et accusés d'être des mercenaires ont été libérés à titre humanitaire, ont indiqué samedi à l'AFP un diplomate malien et un diplomate togolais. Robert Ducey, le chef de la diplomatie togolaise, en a fait l'annonce samedi soir, un dossier dans lequel le Togo joue le médiateur entre Bamako et Abidjan. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens en tenue militaire mais non armés débarquent à Bamako d'un avion de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, un autre appareil transportant leurs armes. Ils sont aussitôt interpellés et interrogés sur les raisons de leur présence au Mali, n'ayant ni ordre de mission ni autorisation pour y être, selon les autorités maliennes.
L'invité.
Le lycée Lubusha est et demeure un patrimoine de l'archidiocèse de Lubumbashi pour l'encadrement et la formation des jeunes filles. Propos de Mgr Fulgence Muteba, qui a effectué une visite la semaine dernière sur place. S'est confiant jeudi à Radio Okapi, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi indique que parmi les actions qui seront menées contre les entreprises minières qui veulent détruire ce bâtiment au profit de l'exploitation minière, il y a notamment la plainte qui sera déposée à Hong Kong, où ces entreprises minières sont cotées en bourse. Mgr Fulgence Muteba est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gando.
Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
Le lycée Lubusha est-il en voie de disparition, de démolition ou de délocalisation au profit de l'exploitation minière?
De notre point de vue, non, parce que il faut d'abord dire que c'est un complexe. Vous avez 800 places pour les internes. Il y a une école primaire et une école secondaire. Pour le moment, du moins de notre point de vue, il n'est pas question ni de démolir, ni de délocaliser, ni de question de continuer les activités scolaires. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a aussi des activités spirituelles, parce que c'est aussi un centre de retraite. Et donc, pour nous, nous continuons les activités jusqu'en nouvel an.
Ben, nous avons appris qu'il y a certains prêtres qui se seraient compromis dans ce dossier, qu'ils auraient vendu ou cédé une partie aux exploitants miniers. Mais vous en parlez fort peu et vous mettez beaucoup peu d'accent que sur ceux du gouvernement qui auraient cédé cette partie à l'exploitation minière. Mais pourquoi donc?
Il y a un représentant légal, n'est-ce pas, de l'ICEBEL, archidiocèse de Lubumbashi, et il n'y a que lui qui est habilité à mettre en vente un bien ecclésiastique. On est d'accord là-dessus? Et alors, il y a eu effectivement des fils égarés qui ont été roulés par des exploitants miniers qui avaient demandé un hectare pour entreposer leur matériel. Il n'a jamais été question de vendre le lycée Lubusha. Il n'en sera certainement pas question. Et donc, ces prêtres égarés n'ont pas eu le mandat, n'est-ce pas, de vendre, parce que le seul représentant légal, c'est l'archevêque. Eh bien, mon vénéré prédécesseur n'a jamais donné l'ordre de vendre. Et je n'ai pas trouvé dans les archives, n'est-ce pas, un reçu de vente du lycée. Même alors, s'il fallait le vendre, il faut quand même commencer par évaluer. Et puis bon, ça n'a jamais été fait. Et donc, c'est une affaire périphérique qu'on doit considérer comme étant une erreur de deux personnes qui n'étaient pas du tout habilitées, n'est-ce pas, à agir de cette manière-là. C'est pourquoi nous considérons pour nous que le lycée Lubusha, c'est quelque chose de tellement valeureux qu'on ne peut pas oser le mettre en vente. Et par ailleurs, l'église n'est pas un marché pour vendre les écoles. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à se mettre en tête qu'on peut vendre un patrimoine comme celui-là?
Cette vente, entre guillemets, avait-elle été annulée? Parce que nous avons appris qu'elle aurait coûté plus d'un million de dollars américains.
Ça, ce sont des échappatoires. Le problème, c'est que nous faisons face à une prédation de très haut niveau qui révèle justement, je dirais même, une crise du bon sens, sans parler bien sûr d'une crise de valeurs. Il ne faut pas qu'on croie que tout ici en RDC, et en particulier ici au Katanga, est à vendre. Non, nous avons beaucoup de richesses, bien entendu, mais ça ne signifie pas que toutes ces richesses sont à vendre. Moi, je crois que Lubusha constitue véritablement un cas de conscience. C'est pas de cette manière-là que les choses se passent. Faut pas minimiser, justement, la valeur de l'éducation de la jeune fille. Est-ce qu'on peut évaluer l'éducation de 800 filles multipliées par le nombre d'années que devra durer ce lycée? S'il faut quantifier, évaluer ça en termes de dollars par rapport aux prétendues richesses qui sont là, mais je sais pas, on peut même pas mettre ça sur la balance. C'est véritablement l'occasion pour se ressaisir et mettre le point sur les i en sachant que ce pays n'est pas quelque chose qu'on peut brader comme ça au prix de je ne sais pas quelques dollars qu'on reçoit de la part des Chinois. Non, ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Nous allons résister jusqu'au bout.
Les fils égarés, qu'est-ce que vous avez fait d'eux?
Ah, les fils égarés, moi j'en ai trouvé, ils étaient suspendus. Il y en a un que j'ai réhabilité justement pour nous aider à comprendre tout ce qui s'est passé. Bon, c'est un problème, c'est un dossier clos parce que ça, c'est pas d'une vente. Parce que tout était illicite, illégal, et c'est tout simplement la ruse, n'est-ce pas, des Chinois. Est-ce que vous pouvez me dire ce que peuvent coûter 1400 hectares soupçonnés d'abriter du cuivre de très haute teneur? Eh bien, moi je pense que ces choses-là sont si complexes qu'on ne peut pas amplifier ce geste de deux fils égarés.
Est-ce que vous avez parlé avec les autorités de Kinshasa à ce propos?
Un dossier va être introduit dans toutes les institutions concernées, pas seulement ici, mais aussi ailleurs. Il y aura un dossier qui ira au gouvernement français, parce que Madame Marguerite, la femme de Monsieur Cousin, qui est enterrée là-bas, c'est une Française. Monsieur Cousin qui nous a donné ce patrimoine, c'est un Belge, mais aussi j'irai jusqu'à la bourse de Hong Kong, où ces entreprises chinoises sont cotées.
Monseigneur Fusion Moutéba, je vous remercie.
Je vous en prie, Jean.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.